Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est une consigne du coach, mais c'est une consigne de moi-même. Je sais que la profondeur, c'est un de mes atouts.
Je veux pas dire qu'il nous manque la réussite. Il nous manque la réussite, mais il nous manque pas que la réussite. C'est qu'il nous manque aussi le petit truc en plus de faire encore plus et beaucoup plus.
Mourinho, il vous a dit l'année dernière, ne voulez pas l'écouter, tout le monde est monté au créneau. C'est le centre de formation de l'Europe. On est devenu de la Yougoslavie des années 70. Vous voulez pas l'écouter, ben n'écoutez pas.
Mon choix a été fait. Même si le Real de Madrid venait à ce moment-là, c'était fini. Mon choix était fini.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là sur RMC en direct, comme tous les soirs, sur RMC la radio et sur la chaîne YouTube de l'After, after-foot, abonnez-vous évidemment. Florent Gautreau est là parmi nous. Florent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Stéphane Guy arrive dans quelques instants avec nous, le studio est là et l'attend. L'événement ce soir dans l'After, c'est le retour de la Ligue 1 demain soir, les gars. Florent veut en parler, de la situation notamment de l'OM dans quelques instants. Marseille qui sera également au programme à 23h. Philippe Pujol sera avec nous, il est journaliste marseillais, il connaît par cœur les liens entre la ville et le club, et entre la société marseillaise et l'OM. Nous débattrons ensemble, notamment après les événements de ces dernières semaines. Donc au club, à 22h30, on débattra des interviews du jour à Lyon, où le mot maintien n'est plus tabou. Figurez-vous, le 32-16 est ouvert, supporter lyonnais. On vous attend. Les suites de l'affaire Darmanin-Benzema également au programme. Le ministre de l'Intérieur était sur BFM TV tout à l'heure. Et puis, avant minuit, Stéphane tient absolument à donner son avis sur le tapis rouge que la France est prête à dérouler à la FIFA pour l'accueillir à Paris. Vous aurez toutes les informations tout à l'heure. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Direct Studio est également là pour vous, les réseaux sociaux de l'After, et puis donc notre nouveau live YouTube qui vous permet de suivre l'After et de regarder, de voir notre studio en direct dans le monde entier. L'OM, on va démarrer par ça tout de suite. Supporters marseillais, on vous attend au 32-16. Carflo, tu veux en parler. Marseille joue Nice samedi soir. Marseille est à Nice samedi soir. D'ailleurs, petite info à propos de ce match. Pas de déplacement de supporters marseillais. Il y a deux arrêtés préfectoraux qui vont tomber là. Donc, malheureusement pour les supporters de l'OM, pas de déplacement possible à Nice samedi. Allez, on y va sur l'OM. Jingle, Florent Gautreau.
Monsieur Sarkozy, vous pouvez nous dire un petit mot. La voiture s'éloigne, il va essayer de remonter sur ma moto.
Ah oui, tu estimes que c'est l'heure de vérité pour Marseille là.
Ouais, j'ai écouté Gattuso aujourd'hui avec attention. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avant la trêve, puisque tu as parlé de Lyon tout à l'heure, c'est très différent entre Grosso et Gattuso. Compliqué pour Grosso et investir plus malade qu'il n'y paraissait. Alors que ça paraissait pas simple non plus pour Gattuso, j'avais fait un avis tranché en ce sens, parce qu'il y avait la crise au niveau des dirigeants, la crise avec les supporters, des joueurs ébranlés et pas forcément en confiance, notamment Aubameyang. Et déjà, Gattuso a fait un gros travail avant cette trêve internationale en gagnant des matchs, en redonnant de la confiance, en jouant finalement un système qu'on espérait, qu'on attendait en 4-3-3, donc c'était pas forcément très compliqué, mais il l'a fait. Et il se trouve qu'Aubameyang a marqué des buts et que sa méthode semble avoir pris. Et à ce titre, il a raconté dans cette conférence de presse, c'est pour ça que je dis que c'est l'heure de vérité, parce que j'irais même, le match contre Nice est un peu un moment de vérité, dans le sens où Gattuso lui-même est allé sur ce terrain en disant c'est un peu comme Brighton, le coach niçois a travaillé avec De Zerbi, c'est des équipes qui aiment avoir le ballon, c'est pas forcément ce qu'on a eu dans les matchs précédents. Et donc maintenant, avec ce qu'on a travaillé, on va voir si on est capable finalement d'être meilleur que contre Brighton aussi, d'être plus à l'aise. Il a aussi parlé de différents systèmes, puisqu'il a évoqué un travail avec la défense à 3. Bref, je trouve que la grève Gattuso a pris très vite, alors que le contexte était très compliqué. Les joueurs en parlent beaucoup. Aubameyang l'a dit en interview. Klose en a aussi parlé, semble conquis, entre guillemets. Je dis pas que c'est le meilleur coach du monde. Je dis qu'en tout cas, la grève a pris, que le moment de vérité, effectivement, contre Nice, enfin, le match sera intéressant. Et pour l'OM, les semaines qui viennent, les jours qui viennent sont assez intéressants, parce que comme il est allé très vite pour prendre ses marques, pour redonner de la confiance, et notamment à Aubameyang, eh ben on va savoir enfin ce que vaut vraiment cet OM qui était tactiquement un peu déboussolé, mais qui a de grosses qualités. Donc j'ai envie de dire qu'effectivement les jours qui viennent, les semaines qui viennent seront très très importantes, mais qu'on peut être plutôt confiant par rapport à ce qui a été travaillé, ce qui a été fait, et notamment au retour de la confiance investisseur de l'OM. C'est effectivement l'heure de vérité, peut-être dès le match contre Nice.
Stéphane Guy t'écoute attentivement. Il n'a rien raté, hein, je le précise.
Religieusement.
Ça va, Stéphane ? Pardonnez-moi. Salut Stéphane.
Pardonnez-moi.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je crois qu'il y a un ministre dans les locaux des RMC, c'est un peu compliqué d'entrer au parking ce soir.
Ouais, comment ça, tu passes pas avant les ministres ici ?
C'est pas le,
tu rentres moins vite
c'est
que
pas le ministre.
Ministre
de la vérité, mais c'est le ministre qui est invité quand même.
Exactement. Est-ce que tu es d'accord avec Flo là sur, est-ce que c'est l'heure de vérité selon toi pour l'OM après là 15 jours de travail que Gattuso a pu mettre en place, même s'il y avait quelques internationaux qui n'étaient pas là bien sûr.
Je rajoute juste avant que oui. Stéphane, il a parlé d'un gros travail physique, c'est toujours assez intéressant parce que ça semble sous-entendre que physiquement cette équipe était pas suffisamment préparée.
Ouais, c'est la vieille antienne de tous les coachs qui arrivent.
Ils n'ont jamais énormément.
On va parler de grosses tout à l'heure. Ils ont jamais avant eux, ils n'ont jamais travaillé.
Ou alors spécificité des coachs italiens qui veulent toujours plus de physique, toujours plus de physique, toujours plus de physique.
Ouais, ça c'est vrai.
Tu vois, c'est bon,
il y a peut-être Gattuso notamment.
Non, mais c'est sûr que la préparation de l'OM avec ce match de Ligue des Champions très tôt au mois d'août a forcément été impacté. Et le calendrier de reprise de l'OM avait été très surprenant de ce point de vue-là, avec une équipe qui avait repris très tard. Et bon, bref, on va pas refaire le film de la saison de l'OM. Moi, j'ai été très surpris après la victoire contre Le Havre. L'OM a battu Le Havre à domicile. Tu vois, l'exploit de Gattuso, il a battu Le Havre à domicile. Je rappelle que le très réputé et renommé Marseillinho a battu Brest et Reims, qui sont des équipes d'un autre calibre quand même que Le Havre. Donc, il n'y a pas grand chose de neuf pour l'instant. Donc, effectivement, l'heure de vérité, bah oui, elle va venir parce que.
Si c'était le système.
Système de quoi?
4-3-3. Non, mais c'était que lui, il a mis ce qu'on attendait. Il n'y a rien de nouveau avec Gattuso.
Bah, je veux dire, Marcelino, il a battu Brest et Reims.
Mais non, dans des matchs. Non, mais moi, je n'étais pas un anti-Marcelino, hein, je te dis juste que.
Non, moi, je ne suis Gattuso. Ni pro ni pour, mais je veux dire, Gattuso, pour l'instant,
Il y a un jingle. Ni pro ni pour, il a dit.
Ni pro ni pour, ouais. Non, mais Gattuso, moi, je lui souhaite le meilleur. Et effectivement, il a eu 2 semaines pour travailler, ce qui, évidemment, est beaucoup plus confortable. Il y a un match très compliqué dès ce week-end. Voilà, l'OM, c'est une équipe qui a attendu top 3. Qui est calibré pour ça, quel budget pour ça, quel est salaire pour ça, quel est joueur pour ça. Donc on attend effectivement une énorme montée en puissance de l'OM entre cette reprise de trêve et puis la trêve hivernale où il va falloir qu'effectivement ils mettent les bouchées doubles. Est-ce que ce qu'on a vu de Gattuso pour l'instant rend confiant? Moi je suis totalement neutre là-dessus, j'ai pas d'avis quoi. J'attends de voir. Je n'ai pas la hype Gattuso, je sais pas d'où elle sort. En tout cas, c'est battre Le Havre, ça m'a pas semblé être une performance extraordinaire.
Il y a pas de hype Gattuso, c'était simplement pour signaler, pour ça que je disais.
Non, mais je parlais pas forcément de toi. Entendu après le match contre Le Havre, plein de bonnes choses, y compris des supporters de l'OM. Ça y est, on a retrouvé. Bon, ok, mais on va quand même attendre de voir quelques matchs de meilleur niveau.
T'as bien compris qu'il collait un peu là, ce qu'on attend à Marseille, un mec un peu truculent. Qui arrive. Des façons méditerranéennes, la petite baffe sur la joue aux joueurs, tout ça. Voilà.
C'est aussi pour dire que quand on dit
ça colle, quoi.
Ouais, ça colle, mais l'heure de vérité, dans le sens où, justement, comme disait Stéphane, il n'a pas eu, si tu veux, ça aurait pu être une cata, il aurait pu avoir des défaites. Il a eu une arrivée plutôt correcte pour lui en termes de résultats. Donc, c'est plutôt plus simple d'arriver comme ça, de faire son travail, comme tu le dis, dans la trêve internationale. Et là, maintenant, c'est pour ça que je dis hors de vérité.
Mais il est Marcelino, il n'est pas parti sur une cata de résultats, Flo. C'est ça que je ne comprends pas dans l'analyse qu'on fait de l'OM. C'était pas ça le problème de l'OM.
Non, mais il y a
il
des
est parti suite à une crise. Il plaisait pas.
Bon, oui, il y a des joueurs qui
je veux dire, il était soutenu comme la corde par le pendu par son président, visiblement, puisqu'il en a, il s'en est débarrassé à la première. Là, je vois que le staff à nouveau bouge, etc. Moi, je pense qu'il est urgent d'attendre concernant l'OM.
Pas mal de réactions sur Direct Studio. Kenny qui nous dit d'accord avec Stéphane Guy ce soir, pour une fois, dit-il. Ah. S'extasier sur Gattuso uniquement sur sa communication, il en faut peu visiblement pour être content à Marseille, dit Kenny.
Non, mais je pense pas que y a pas que ceux qui sont fans de Gattuso. C'est que les gens craignaient, voyaient qu'il y avait un truc qui clochait, y compris dans le vestiaire. Y compris dans la relation qu'avait Marcelino avec ses joueurs, même si effectivement il n'a pas de mauvais résultats. Moi, j'étais plutôt partisan de ceux qui disaient il faut le laisser progresser avec son équipe, que je voyais progresser. Mais
moi, j'ai pas dit ça.
Non, mais les joueurs avaient des interrogations. Et donc, je dis juste que même si c'est pas le meilleur entraîneur, et on le sait, Gattuso, les joueurs ont moins d'interrogations parce qu'on leur propose un système un peu plus cohérent par rapport à ce qu'ils attendent. Et Aubameyang a marqué, il a repris un peu de confiance. Donc, je dis juste que l'équipe a l'air d'aller mieux et que on va savoir effectivement s'ils ont vraiment le niveau, comme tu le dis, d'être dans le top 3. Moi, je dis pas que Gattuso va faire des miracles. Je dis juste que l'équipe semble alors que le contexte est complètement fou. Parce que il y a eu un moment, on s'est demandé comment les joueurs pouvaient jouer un match, notamment quand ils ont joué contre l'Ajax. On va dire que le contexte est pacifié, le travail est fait, les joueurs sont plus en confiance dans un système qui leur convient mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je dis hors de vérité, parce que je suis impatient de voir cette équipe qui a quand même des qualités dans son effectif, ce qu'elle peut donner effectivement d'ici la trêve hivernale.
Alors il y a Nice là, puis il y a Lyon la dimanche de la semaine prochaine. Alors vous allez me dire Marseille-Lyon, c'est plus tellement un choc, c'est devenu
pour le maintien,
un match qui peut être déséquilibré.
Pour le maintien de Lyon.
Oui, parce que Marseille joue pas le maintien quand même.
Non, non, pas Marseille.
Il n'exagère pas. Mais voilà, ce sera dimanche prochain. Dans un instant, on va écouter Gattuso qui parle de son style de management, et puis on vous accueillera, supporter marseillais, pour débattre avant de parler ensuite de Lyon. Et dans la première heure de l'after, vous aurez également le point du soir sur l'affaire Darmanin Benzema. Ça devient un feuilleton. Tout le monde s'en mêle, tous les politiques de tous bords désormais. Le président de la Fédé, lui, a pas voulu trop se mouiller. Enfin, je vous raconterai ça tout à l'heure, avant de retourner ensuite à Marseille après 23h. À tout de suite, c'est l'after jusqu'à minuit.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Brisbois.
Il est 22h13, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau est là, 32-16 supporters marseillais, on vous attend pour évoquer la suite de la saison de l'OM Nice-Marseille samedi soir. Écoutez Gattuso, aujourd'hui en conférence de presse, il était avec Florent Germain, il parle de son style de management, un peu particulier, on en parlait il y a quelques instants, écoutez.
Un coach doit toujours être sur les joueurs pendant toute la durée de l'entraînement, mais après, ils ne me voient plus. Le vestiaire appartient aux joueurs. Comme ce n'est qu'1h15 d'entraînement, je pense qu'ils peuvent accepter ça. J'ai essayé de me retenir, mais la charge de travail a diminué de 35%. Je préfère être lourd comme ça. Parfois, je prends même un Doliprane, car j'ai mal à la tête.
Donc en gros, il dit moi voilà, moi je les lâche pas, mais parce ça, que dès que ça, je les lâche, il y a
voilà, mais ça on aime, ça effectivement, ouais. Évidemment, moi je comprends que effectivement il laisse pas indifférent, il crée quelque chose autour de lui Gattuso et sans doute qu'on a envie de le suivre peut-être plus qu'on avait envie de suivre son prédécesseur espagnol, voilà.
Oui, qui semblait quand même un peu plus froid, même s'il était autant latin que Gattuso à la base. Écoutez maintenant Gattuso sur une autre question. Vous savez qu'il y a un débat sur Luis Enrique en ce moment sur les explications qu'il donne. Alors j'avoue, il dit oui, mais c'est mes choix, c'est comme ça, c'est moi qui fais les choix. Sauf sans rentrer trop dans les détails, à Newcastle l'autre jour, on s'arrachait les cheveux, essayer de comprendre ce qu'il avait voulu faire. Lui-même n'a rien voulu dire. Il dit oui, mais je trouve que j'ai mis la bonne équipe. Enfin bon, Gattuso lui. Il dit qu'il est prêt à discuter avec les journalistes. Il a bien conscience que les suiveurs de l'OM ne sont que les intermédiaires entre lui et les supporters. Et il fait même quelques propositions, écoutez.
Tutto quello che io faccio, perché l'ho visto fare.
Je n'ai pas de secret. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir d'évolution entre nous et vous, les journalistes. Les personnes curieuses sont les meilleures personnes. Je trouve ça toujours très intéressant. Si un jour vous voulez, on pourrait organiser une leçon technico-tactique hors caméra avec du café, du cappuccino, du vin et même du saucisson si vous voulez.
Voilà, donc il est ouvert à la discussion.
Mais il a une opération séduction.
Oui, je pense aussi.
Mais ceci dit, moi je pense qu'il est assez sincère. Je pense que ça doit être ce genre de personnage. J'imagine, hein, moi je ne l'ai évidemment jamais rencontré. Mais. Bon, et après, et ça permet d'avancer à quoi et comment, là, ce qui vient.
Voilà,
on passe un bon moment, okay, on se marre, on est content. Maintenant, mon garçon Gattuso ou Marcelino ou qui tu sois, la résultat, ça va être Nice-Marseille, ça va être Marseille-Lyon. Voilà, on va voir après, comment ton équipe va jouer, comment ton équipe va, si une équipe va gagner ou pas gagner.
Dans la conf.
Oui.
Non, mais il a un peu parlé tactique et tout aussi. Donc, c'est pour les confs. Après, il y a beaucoup de choses dans les confs. Et oui. On retient aussi ce qu'on veut retenir.
Par contre, il ne sera pas très compliqué pour Gattuso d'être plus populaire auprès de notre profession et aussi des fans de foot, je pense tout simplement. Parce que, effectivement, comme le dit Gilbert, on n'est jamais des intermédiaires entre nous et les acteurs et les suiveurs. C'est ça, les médias. Que son camarade Luis Enrique, qui, de ce point de vue-là, file un très mauvais coton.
En effet. Alors, non mais rentrons un peu dans les détails, parce qu'on attend quand même un rendement meilleur pour Aubameyang devant. On attend de voir ce qu'il va faire comme choix définitif au milieu. Là, Kondogbia va revenir tout doucement. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes.
Même en défense, parce qu'il a dit.
Il y a pas mal. Oui, il y a toutes les lignes, il y a des incertitudes.
Des incertitudes. En tout cas, il est allé intelligemment sur un système qui existait à 4 derrière, il n'a pas tout chamboulé tout de suite, et plutôt 4-3-3 pour milieu attaque. Et là, il a dit quand même, effectivement, qu'il travaillait aussi un système à 3 derrière, qu'il s'était servi des 2 séances par jour pour faire tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant, parce que il va pas vouloir changer tout le temps, mais on va voir s'il y a un nouvel OM pour le coup.
Gigo absent, je précise.
Ça plaide pas pour la défense à 3 d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, effectivement, il a des idées aussi là-dessus. C'est pour ça que je disais, dans la partie psy, bon, la com, ok. La partie psy, je pense qu'effectivement, par rapport au vestiaire, quand on a écouté, on écoute Klose, on a écouté Aubameyang, qui a raconté un peu que le sourire, en disant, ah oui, c'est vrai que bon, des fois, c'est un peu spécial dans le vestiaire, mais il est marrant, ça se passe bien. Bon, ben, en gros, ok, on a compris, il a été intégré, il a été accepté. C'est plutôt des points positifs. Mais effectivement, si la première fois qu'il met sa défense à 3, l'OM perd 2-1, il va se faire siffler par le Vélodrome et puis il n'ira pas acheter sa baguette à Marseille le lendemain tranquillement. Quoi. Donc ça, c'est...
Renaud est là au 32-16, supporter marseillais. Renaud, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Florian, bonsoir à Stéphane Guy, que je n'oublie pas. Formidable Stéphane Guy qui nous fait plaisir à chaque fois lors des soirées de match de Coupe d'Europe.
Merci. Ah, tu suis Stéphane lors des soirées de Coupe d'Europe. Très bien, excellent choix.
Oui. C'est vrai que, bon, pour ne pas faire de publicité, j'ai le choix entre deux chaînes en regardant la Ligue des Champions, mais je privilégie Stéphane.
Bon, bah, moi je trouve que c'est un bon choix.
Voilà.
Tu m'enverras ton RIB. Hein. Merci Kevin.
Renaud. Non,
parce qu'il y a une vraie gentillesse et puis il y a une vraie passion du football aussi.
Oh là là.
Oui, c'est pas, et puis c'est pas du.
Je rosie.
Alors, c'est sur la passion du football, oui. Alors la gentillesse, bon, on peut en discuter.
On peut en discuter.
Ah, ouais, quand même. Je pense qu'il y a des gens plus redoutables.
Bon, blague à part.
Bon.
Est-ce que tu fais partie des Marseillais totalement déjà conquis par Gattuso, ou un peu comme nous tous là, tu dis bon, ok, maintenant attendons de voir sur pièce les résultats.
Oui, bah. Bah moi, le problème, c'est que je suis très bielsiste. Alors, j'ai aimé Bielsa, j'ai aimé le jeu de Marseille quand Bielsa a été entraîneur pendant une saison. Bon, ça, tout le monde le sait. Après, c'est bon, comment dire. C'est ma passion sud-américaine aussi, parce que je suis le football sud-américain depuis des années. Et puis, de temps en temps, je passe aussi pendant la Coupe du Monde 2018-2022 pour parler un peu des équipes sud-américaines. Pour ce qui est de Gattuso, qui n'est pas sud-américain, bien sûr, qui est italien, bon, je pense qu'il faut laisser un petit peu sa chance. Après, je suis ni enthousiaste, mais je suis ni dithyrambique, ni sévère avec lui. Je sais qu'on lui a un petit peu rentré dedans pendant le match où ils perdent contre Monaco. Enfin bref, où ça a été un match assez accroché, assez serré. Bon, je trouve qu'on a été un petit peu sévère avec lui. Je pense qu'il faut encore lui laisser un petit peu le temps, voir un peu ce que ça va donner au niveau du championnat le week-end prochain. Il faut lui laisser un petit peu le temps. C'est comme pour son camarade espagnol au Paris Saint-Germain, Luis Enrique, c'est la même chose.
Il y a une petite théorie sur Direct Studio. On me dit, vous n'avez pas compris que Gattuso, il fait justement de l'anti-Luis Enrique. C'est totalement stratégique.
Je crois qu'il est comme ça naturellement.
Enfin, Gattuso. Non, mais ça.
Non.
Une nouvelle fois, n'étant pas que de la com, en fait. Parce qu'après, voilà, faut voir ce qu'il fait avec ses joueurs.
Je crois que vraiment, là, Gattuso, il a toujours été comme ça. Il fait toujours ça. Il y aura aussi des pétages de plomb et des trucs peut-être moins sympathiques et tout, mais qui font partie de son personnage.
Moi, j'ai pas d'avis. Je le découvre comme entraîneur. Ouais. Franchement, j'ai aucun avis sur l'entraîneur Gattuso. Autant le joueur, on a mille souvenirs de lui, mais alors l'entraîneur Gattuso, pour moi, c'est sa page qu'il écrit. Hein.
Oui.
Bon, Renaud, écoute, donc t'es plutôt neutre et t'attends, t'es dans l'attente. On verra ça.
Mais je partage ton amour de Bielsa. Enfin, moi, je ne suis pas bielsiste comme toi, tu le dis, mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on a vécu une année extraordinaire, l'année de l'OM avec Bielsa. C'était chaque match de l'OM était un moment de joie, un moment rare, un moment incroyable.
Bon, Bielsa qui a battu, vous avez vu qu'il a battu le Brésil avec l'Uruguay quand même.
Et, ah non, j'ai pas.
Avant-hier.
D'accord. Oui.
Dans la nuit de. C'était quand ouais, bah, pas cette nuit dernière, celle d'avant.
Bielsa en faisant des choix.
De mercredi à jeudi.
En faisant des choix radicaux.
Non, de mardi à mercredi.
Sur les anciens joueurs, on en parlait hier. Cavani, Suarez. Donc on construit une nouvelle équipe, une nouvelle génération qui est souhaitable pour des raisons d'âge et qui gagne et qui bat le Brésil. Il y a de quoi se faire aimer des fans.
Non mais c'est un plaisir. Après c'est voilà, ça, on va pas faire le débat Bielsa maintenant. Hein, mais
non.
Mais les matchs de l'OM à l'époque, en tout cas, c'était on avait tous, je pense qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on avait tous envie de regarder ce match et on pouvait pas s'ennuyer à regarder un match de l'équipe de Bielsa. C'est pas possible.
Tu sais que j'ai l'impression que c'était une éternité.
Ouais.
Enfin, je sais pas. Après le foot, c'est comme ça.
Bah oui, quoi, c'est vrai. Difficile bah, ça fait quand même déjà 6-7 ans, hein, Bielsa.
Ouais, enfin, il y a pas si longtemps que ça. Bon bref.
Moi j'étais au Vélodrome le fameux soir contre Caen après le but d'Andy Delors. où il a salué tout le monde en conférence de presse. Il est parti. C'est quand même.
Ah, le début de saison.
Le premier match de la saison. Au revoir, messieurs là. Extraordinaire. quel moment. Quel moment.
C'était Gignac qui avait marqué, me dit-on.
Non, c'est Caen qui avait gagné 1-0 à Marseille. Non, c'est Delors.
Mais non, alors ça c'est Toto. Ne jamais croire le réalisateur.
Je peut-être.
Lui, il a rien compris. Moi, il croyait que c'était un buteur de l'OM.
J'ai pas une mémoire.
Delors n'a jamais joué à Marseille. Il a commenté.
Caen avait gagné à Marseille. Ouais, c'était Garand.
Quand tu commentes, effectivement, je serais plus confiant.
Je crois.
Qui a commenté qu'à Toto qui n'a pas commenté le match. Très bien.
Caen avait gagné. Ça c'est sûr. Après le buteur, je crois.
Donc on a un point commun. On a commenté un match de Caen. Au moins un. Moi un. Notamment à la finale de la Coupe de la Ligue. Mais t'as dû regarder à l'époque.
À l'époque, oui, bien sûr.
Quand Strasbourg, oui.
Mais les deux Caen Marseille sous Bielsa, parce qu'il y a eu une victoire de Marseille avec un but de Gignac, là il a raison Toto, à Caen, avec un but de Gignac à la 95e minute, victoire 2-1, je crois, à Caen, et ou 1-0, qui avait été aussi extraordinaire.
Le Caen Strasbourg, c'est but de Jean-Christophe Deveau sous la barre ?
Deveau pour Caen, et je crois que c'est Duhamel pour Caen.
Et Strasbourg qui gagne.
Strasbourg qui gagne avec Duguay Perrou,
évidemment. Pardon Stéphane, mais...
Eh oui.
Comme ça, les titres s'accumulent. Dans un instant... Lyon, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. À Lyon, alors, des interviews, des clats qu'il faut décrypter, mais il y a un truc quand même que je retiens, et vous allez l'entendre. Le mot maintien n'est plus tabou. Oui, les jours passent, et ben voilà, on commence clairement à se dire, bon ben voilà, on va pas se planquer.
C'est grosso, donne des leçons de maintien.
Exactement. On en parle dans quelques instants avec vous, supporters lyonnais. Je remercie Renaud au 32-16, évidemment, supporter de l'OM. Lyon au programme. Et ensuite, vous entendrez le ministre de l'Intérieur dans l'after qui était sur BFM TV tout à l'heure pour refaire le point sur le feuilleton Karim Benzema. Enfin, feuilleton. C'est plutôt feuilleton Darmanin Benzema plutôt qu'un feuilleton Benzema, parce que Benzema, lui, à la base, il avait rien demandé. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h26, Stéphane Guy est là, Florent Gautreau et là, vous savez que Daniel avait ce soir, il s'est absenté, s'il avait ce soir un grand tournoi de poker, la rumeur publique nous dit qu'il s'est fait sortir en premier du tournoi de poker. Je demande quand même confirmation de ce fait d'armes, de cette nouvelle ligne à son palmarès.
Il va venir, il est très intéressé par notre débat de 23h.
Voilà.
Une démonstration sur les fake news ou pas.
Oui.
J'ai lu un tweet, donc pour l'instant c'est pas une info. Hein. J'ai un tweet de quelqu'un qui a l'air informé, présent sur ce tournoi et qui a donné l'info que tu viens de donner, à savoir que Daniel aurait été éliminé en premier. Mais
c'est pas ça l'info.
Voilà.
C'est Daniel aurait passé le premier tour. Ça c'est une grosse info.
Mais c'est pas le cas. A priori c'est pas le cas. Mais maintenant on va vérifier l'info. On va demander à nos fins limiers pour être sûr et certain de cela.
Alors.
Parce qu'après, Florent, il a dit qu'il a perdu et qu'il était le meilleur.
Florent nous explique aux plus jeunes auditeurs qu'il a commenté une finale de la Coupe de la Ligue, qui date un peu maintenant, quand même, on va pas se mentir.
Ça doit faire 18 ans.
Mais dans l'after, on a les archives.
Attention, le maître a vu Mazur. Mazur est seul, c'est la première. Mazur qui égalise. Égalisation du Stade Malherbe de Caen. Un but partout à 3 minutes de la mi-temps. Super pronostic de Xavier Gravelaine.
Ah, il me fait de mettre le but de Strasbourg.
Non, oui, en fait, c'est Mazur. Hein. Oui, j'ai fait une petite erreur.
Super garçon. Mazur. Sébastien Mazur. Ouais. Entraîneur, hein. Il entraîne en Normandie un club amateur. Ouais.
Un 9.
Il a eu son moment
Bon joueur.
Il a eu sa grande période à cette
époque. Et en fait, pour la petite histoire, c'est parce que Gravelaine dit juste avant.
Très agréable. Très
annonce le but un peu avant en disant. Quand est en train de machin, Mazur.
Ça, tu briefes pas. Moi, c'est un combat permanent avec les consultants.
Tout le temps.
Ne parlez pas sur nous.
Et
quand il y a but, attendez que les ralentis arrivent.
Xavier, impossible. Totalement. Allez, encore. Là, il y avait du mieux. C'était déjà la finale. Mais alors, Xavier, c'était infernal. Le 1-2 propre, c'est
mais
compliqué.
Ça, c'est
la base.
C'est la base. Et puis, c'est surtout le respect de celui qui écoute. Parce que quand t'as deux personnes qui parlent en même temps, c'est compliqué à saisir.
Au tout début, je dirais qu'il était tenté de commenter le but lui-même.
Ouais. Tu vois, il vaut presque mieux.
Ouais, mais
il vaut presque
t'es un
mieux.
Peu frustré après.
Alors, l'OL, allons-y les gars, parce que pas mal de choses aujourd'hui. Déjà, une réaction politique. Édouard G a croisé Bruno Bernard, qui est le président de la métropole à Lyon, qui est un grand supporter de l'OL, très très pessimiste. Qui remet en question la stratégie de John Textor, qui parle clairement de maintien. Voilà, donc bon, vous allez me dire, c'est pas un gars du foot, c'est un politique, mais bon, C'est quand le président de la métropole dit ça, c'est que voilà, ça transpire dans les discussions quoi entre décideurs à Lyon évidemment. Et aujourd'hui, il y a deux interviews qui interpellent. Il y a d'abord celle donc de Grosso.
La surprise, oui. Pardon Gilbert, avant que tu abordes les interviews de Grosso et de, mais la surprise, ce serait de rencontrer un Lyonnais qui nous dirait qu'il est confiant dans le projet Textor. Enfin, faudrait tomber de la lune parce que pour l'instant.
Non mais ce que je veux dire, c'est que quand
la fumée est noire, est très noire.
Moi-même. Et pourtant, on a vu Bordeaux et d'autres, Saint-Étienne. Moi-même, aujourd'hui, j'arrive pas à envisager que Lyon joue le maintien. Mais peut-être que j'ai tort, parce que t'es toujours sur l'image d'un club puissant, riche, qui a un énorme stade, qui a un bel effectif.
Oui, mais dans les infos d'Edouard, les mots de ce patron directeur, patron élu de l'agglomération,
président de la métropole,
la métropole. Il y a deux choses. Que Lyon joue le maintien, c'est une évidence, c'est un constat, c'est un factuel, il n'y a rien à dire. En revanche, qu'il y ait une critique et des craintes sur l'avenir de Lyon par rapport à son nouveau patron, alors là, ça, oui d'accord, ça c'est intéressant. Mais que Lyon joue le maintien, moi je ne pense pas qu'ils vont descendre. Ça c'est autre chose. Mais qu'ils jouent le maintien, c'est un fait. Ils jouent que le maintien et uniquement le maintien. Ils ne peuvent pas jouer autre chose.
Et une nouvelle fois, tu n'as pas l'habitude d'être dans cette situation-là. L'exemple le plus récent, c'est Bordeaux, où pendant longtemps, on se dit « Ah, oh, mais... » descendront pas.
C'est pas possible.
Bien sûr. Et puis bon, au final, voilà.
Bon, il me semble quand même, Gilbert, objectivement, qu'il y a un effectif à Lyon aujourd'hui qui est autre chose quand même que l'effectif qu'avait Bordeaux l'année où ils sont descendus. Mais,
c'est pour ça que je ne les vois pas descendre. Mais là où tu as raison, c'est qu'on est toujours dans ces équipes dans lesquelles des joueurs n'ont pas l'habitude, l'envie, n'avaient pas le mental pour jouer le maintien. Alors, c'est tout l'objet d'ailleurs de Grosso qui lui aussi, comme Gattuso, tu vas en parler, a fait son boulot pour les motiver en ce sens.
Et surtout, il y a une équipe qui est descendue avec un effectif qui, pareil, n'était pas du tout fait pour ça, c'est Lens. Allez, je parle pas de la première descente. La première descente de Lens en 2007-2008, il y a par exemple Eric Carrière qui joue à Lens à cette époque-là, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1 deux ans plus tôt, qui est un joueur, et puis, parce que je pense à Eric, parce qu'évidemment, je l'ai bien connu, mais il y a un effectif à l'époque. Alors, c'est l'année Papin, Giroud, etc., l'année cauchemar de Lens. Ça peut ressembler plus à ça, à Lyon, que Bordeaux.
Alors, j'en arrive à Grosso. Donc, dans le Progrès, le journal lyonnais, il donne une interview. Il met un petit taquet en creux à Laurent Blanc sur la situation quand il est arrivé, en mode j'ai trouvé une équipe. En gros, pas prête. Bon, cela dit, s'il y a changement d'entraîneur, fallait pas s'attendre à ce qu'elle marche sur l'eau, cette équipe. Sinon, il n'y aurait pas eu de changement d'entraîneur, par définition. Et il on lui repose des questions sur Cherki qui a fait l'actu cette semaine parce que il a été étincelant avec les espoirs, certes, contre Chypre. Bon, enfin bon, il a fait un bon match, voilà. Et lui, il redit une nouvelle fois, avec ses mots un peu diplomatiques, il dit « Cherki doit jouer pour l'équipe ». En gros, faut qu'il lâche le ballon et c'est ce qu'il lui reproche. C'est sans doute pour ça qu'il le met sur le banc. Mais là, Cherki, là, dans ce que je comprends de Grosso aujourd'hui, il va encore être sur le banc contre Clermont dimanche. Ou alors, j'ai pas compris l'interview.
Ça, c'est le danger de Lyon, c'est que effectivement le verre soit dans le fruit, que l'ennemi soit à l'intérieur. Voilà, c'est le genre de problème ça qui peut être inquiétant. Qui a raison? Enfin, moi je me positionne. Je pense que c'est une erreur de mettre Cherki de côté. Enfin, quand on est à Lyon, pour moi, c'est une erreur. Mais bon, respectons un entraîneur qui arrive, qui effectivement a des infos que nous on n'a pas. Mais si la pétaudière est interne, dans des situations comme celle que connaît Lyon, déjà qu'il peut pas y avoir d'union sacrée, puisque dans l'interview dont tu parles, on comprend quand même que Grosso il a zéro contact avec Textor. Ce qui est quand même extraordinaire.
Oui, jamais là, lui.
Voilà, on comprend que c'est... Donc, il ne peut pas y avoir cette union-là entre des dirigeants, un groupe, un entraîneur, ça ne peut pas exister. Mais si en plus, entre l'entraîneur et les joueurs, ou au sein même des joueurs, il y a des fractions, ça fait peur.
Alors, sur Cherki, il y a un truc quand même qui est évident, qu'on voit dans le foot tout le temps. Quand tu as un changement d'entraîneur et un joueur un peu emblématique... qui joue pas.
Qui ramasse, ouais.
Souvent, le nouveau, il veut renverser le truc. Il dit, tiens, moi, je vais te faire confiance. Et là, il arrive, et au bout de trois jours, il le fait pas jouer quand même. Donc, il a quand même vu les trucs assez vite, vraisemblablement, Grosso. Moi, c'est comme ça que je l'interprète.
Moi, je pense que Grosso, évidemment, doit compter, va compter. Il le dit aussi dans l'interview, d'ailleurs, sur Cherki, sur son talent. Et qu'il dit ce que Blanc aussi disait. Puisque Blanc a dit sur Prime, très vite, Cherki, je lui reproche des choses, mais je les lui ai dites.
Mais la différence, il le faisait jouer.
Oui, et la différence, c'est qu'il
l'a fait progresser.
Il a pris une option en disant Je parle beaucoup avec lui. Et Cherki d'ailleurs l'a dit, quand Blanc est parti, a dit j'ai eu une très bonne relation avec Blanc qui m'a fait comprendre des choses. Oui, mais il a peut-être fait progresser, mais les défauts de Cherki, ceux que Blanc avait pointés, à savoir je lève les bras de dépit dès qu'il y a une passe qui ne m'est pas faite, ils existaient encore souvent récemment. Ouais. Le fait de ne pas être assez collectif, ça existait encore récemment. Donc que Grosso ait choisi, on va dire, un autre remède qui est je le pique, je le mets sur le banc et après je le remettrai titulaire. On verra. On dit toujours, c'est le terrain qui va décider. Mais Cherki, effectivement, son truc, c'est que il y a souvent eu, quel que soit le coach, puisque Blanc en avait parlé en disant, oui, il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est un mec super, on a une bonne relation, on va y arriver. Ça fait partie quand même de ces joueurs qui sont pas les plus simples pour les entraîneurs, puisqu'à chaque fois il faut user d'expédients, d'arguments, de motivation pour arriver à les faire arriver à leur meilleur niveau. C'est quand même un souci parce que. Il est jeune, mais ça fait un petit moment maintenant.
C'est un souci, mais c'est quand même un peu le métier de l'entraîneur aussi.
Bien sûr.
Voilà, c'est que tous les joueurs sont pas faciles,
Ça dure un petit peu pour chaque.
Ouais, il est très jeune.
Tony est là, supporter lyonnais. Bonsoir Tony.
Et bonsoir à toute l'équipe.
Bon, toi aussi tu parles de maintien ou tu crois pas encore?
Mais alors, moi, croire au maintien, non. Forcément, quand on est supporter olympique lyonnais, on pense surtout à revenir dans le top 10.
Ah, voilà.
Après, voilà, moi la petite info en plus là que j'ai à donner, c'est qu'il y a le patron entre guillemets du sportif qui est parti en formation préparation mentale. Donc je pense que tout le monde a souligné que j'ai malheureusement plus son nom. C'est un monsieur qui a été mis par Textor.
Ah, Monsieur Cucci.
Voilà, alors c'est pas Cucci, c'est son juste en dessous.
Très bien.
Et donc il est parti sur une formation de préparation mentale. Donc ils ont forcément soulevé que le problème était mental et pas footballistique à Lyon. Et de ce fait, je pense qu'ils sont en train de dépolariser un petit peu les objectifs qui sont normalement ceux de Lyon, de finir dans un top 5. Aujourd'hui, le fait de mentionner un maintien ou de mentionner des points urgents pour sortir de cette zone-là, c'est aussi une manière d'écarter un petit peu les joueurs de cette pression qu'il doit avoir dans le vestiaire et qui ne doit pas être positif pour la performance, ça c'est sûr.
Bon voilà, vous voyez, tous les supporters lyonnais ne sont pas là à se dire on joue le maintien, ils espèrent encore revenir plus fort. J'aimerais quand même qu'on dise un mot d'une autre interview aujourd'hui dans le magazine Planète Lyon, enfin sur le site de Planète Lyon, peut-être que ce sera dans le magazine aussi. Une interview d'un proche de Juninho, il s'appelle Thomas Lacondemine, il devait devenir l'assistant de Juninho. On a raconté cette histoire, rappelez-vous dans l'after, de Juninho qui, quand il était en poste, avait demandé au club d'avoir un assistant, notamment pour lui écrire les mails en français, enfin quelqu'un de confiance avec qui il puisse discuter. Il se trouve que cet homme-là, qui est un ancien journaliste, était très proche de Juninho, et Juninho lui a dit viens avec moi, tu vas venir au club, tu vas m'aider au quotidien et tout. Et ça s'est pas fait. Et ça a été un vrai point de crispation entre Juninho et Vincent Ponceau à l'époque. Et là, donc Thomas Lacondemine raconte les dessous de cette affaire. Il explique qu'en gros, Ponceau, depuis 2019, décide à peu près de tout au club. Ce qui donne écho à l'interview, rappelez-vous, de Dembélé, qui avait sulfaté dans tous les sens là, il y a quelques jours de cela. On avait lu les extraits dans l'after, qui disait pareil. Il disait c'est dingue, le club est géré par un gars qui connaît rien au football. Il citait Dembélé et Vincent Ponceau. Là, c'est ce que dit aussi Thomas Lacondemine. Et l'idée de Juninho n'a pas compris que le club soit dirigé par Ponceau alors qu'il n'a aucune compétence dans le foot. Et surtout, il dit depuis 2019, donc là, Jean-Michel Aulas, c'était encore le patron concret, eh bien, Jean-Michel Aulas ne décidait plus de rien. Il avait complètement lâché la rampe suite à un changement dans sa vie personnelle. Jean-Michel Aulas, il s'était éloigné du club. Il avait donné les rênes à Ponceau. Et à cette petite anecdote, quand même, il explique qu'en fait, Juninho et Jean-Michel Aulas, pendant tout le temps où Juninho était là comme directeur sportif, ne se sont jamais vus en tête-à-tête tous les deux. Jamais. À chaque fois, il y avait au moins Vincent Ponceau qui était présent.
En fait, pour avoir lu l'interview là, qui est assez longue, ce qui est le plus terrible dans tout le, parce que tout le reste on le savait à peu près, après chacun se fait son avis, mais l'interview est assez claire, parce que lui il estime effectivement ne donne pas le bon rôle, c'est Juninho qui a informé régulièrement cet ex-journaliste que effectivement le poste allait être créé, qu'il n'avait plus qu'à signer, qu'il allait être convoqué, que ça allait se faire. Donc lui était un peu à l'extérieur.
Ça donne le sentiment que Ponceau mettait toujours des bâtons dans les roues de Juninho.
Et de fait, Ponceau avait déjà trouvé une assistante commune à lui et à Juninho avant cette nomination-là pour éviter justement qu'il y ait un assistant uniquement pour Juninho. Et surtout, ce que montre cette interview, c'est que Jean-Michel Aulas avait lâché un peu les rênes. C'est-à-dire que Ponceau validait tout, et même quand on disait c'est Aulas qui a validé, Ponceau rappelait, notamment pour l'emploi de ce jeune homme, en lui disant en fait c'est validé, mais en fait on va pas le faire. Et il a reçu un entretien d'embauche, et derrière il a estimé que ça ne pouvait pas se faire. Et autre chose, à un moment donné, vu la tournure des événements, Thomas Lacondemine, c'est Thomas son prénom, il a envoyé un message à Jean-Michel Aulas en lui disant écoutez, là il y a un souci parce qu'on se comprend pas bien, et il a voulu parler directement à Aulas, et là immédiatement c'est Vincent Ponceau qui l'a rappelé. C'est-à-dire qu'Aulas disait à Ponceau, tiens, il y a machin qui m'appelle, rappelle-le. Bref, c'est Ponceau qui gérait le club à 100%. À Ponceau à 100%. Donc, non, mais c'est quand même une réalité, puisqu'on a toujours dit, ouais, c'est quand même Aulas, toujours le boss et tout. Quand on disait que depuis quelques années, et en date,
on correspond d'un assistant qui délègue
à
Ponceau son pouvoir, de la vente du club à Textor.
Non, mais quand Juninho.
On ne parle pas non plus de recruter un cadre supérieur.
Juninho évoque, lui, sur toute la durée, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le lien entre Thomas Lacondemine et Juninho, ils étaient très proches. Et Juninho se plaignait de ne pas avoir.
Ils
ne
se sont pas vus pendant 10 ans. Ils se sont retrouvés. Enfin,
en l'occurrence, ils étaient en contact permanent. Écoute,
j'ai trouvé que ça témoigne de la solitude totale de Juninho. Parce que le seul point d'ancrage de Juninho à Lyon, c'était ce journaliste qu'il avait, avec certes, il avait des bonnes relations. Enfin bon, il le dit lui-même, hein, quand il décrit leur relation. C'est pas une relation continue, régulière, profonde, etc. Donc ça veut dire que ce garçon-là, il est arrivé à Lyon tout seul, qu'il n'avait pas de relais localement, qu'il n'avait pas d'organisation. Donc il n'est pas arrivé en disant voilà, moi j'arrive. Ce qu'on fait quand on arrive dans un si tu recrutes un cadre dans une boîte, il arrive avec une feuille de route. Alors toi, t'as tes idées pour la feuille de route, mais lui, il y arrive aussi en disant moi je viens à telle et telle condition. Ce que Juninho visiblement a été incapable de faire. Je trouve que ça confirme ce témoignage-là. Il confirme l'inaptitude absolue de Juninho pour occuper cette fonction-là.
J'entends ton argument. Moi, je le vois aussi différemment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en interne, personne n'a aidé non plus Juninho à se mettre dans ses fonctions.
C'est vrai aussi.
Bon, tu débarques. C'est sûr que si tu vois que tu sens que ton plus proche supérieur hiérarchique, en l'occurrence Vincent Ponceau, est toujours là, te pète des bâtons dans les roues, c'est compliqué.
Je crois pas, Gilbert. J'ai pas vécu ça de l'intérieur, mais je vois pas pourquoi, a priori, Ponceau aurait eu
Il y avait clairement une concurrence sur le domaine de compétences de chacun.
Apparemment, Vincent Ponceau quand même souhaitait aussi avoir qu'on élargisse son périmètre au football, puisqu'il s'est fait nommer directeur du football. C'est l'un d'ailleurs des soucis pour tout le monde Et en l'occurrence, Juninho.
Moi, je conteste totalement l'idée que j'entends et qu'on a encore entendu, que vous avez dit encore, que vous dites, pardon, il y a encore 5 minutes, il connaît rien au football. Ponceau, ça fait 15 ans, je sais pas combien de temps il est à l'OL, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il est aux côtés d'Aulas à l'OL.
Oui.
Il connaît le football, Stéphane, aussi bien que toi, Florent, aussi bien que moi, et aussi bien que Gilbert, et de l'intérieur, il était dans les népos.
C'est pas ça que les gens contestent.
Alors voilà. Qui soit pas l'homme à savoir.
C'est compétences terrain.
Oui, mais c'est pas ce qui est demandé à un directeur général.
Ce que montre tout ça, c'est l'inorganisation de ce club terrible, alors qu'on n'imaginait même pas ce que c'était là depuis 2019. T'as un président, qu'il est Ponceau, et même s'il connaît le foot plus qu'on ne le dit, tu as sans doute totalement raison, mais qui a déjà un périmètre très large, hein, financier, administratif, etc. Et que tu aies ton autre jambe, qui soit le sportif, qui est très important quand même dans un club, qui soit géré peut-être par quelqu'un de plus compétent que Juninho, t'as aussi raison, aussi peut-être
dans un club historiquement qui n'a jamais eu de directeur sportif.
Mais
je rappelle que les grandes années de Lyon, les 7 titres de champion de Lyon, c'est sans directeur sportif.
Là, tu
as un homme de football qui est Bernard Lacombe, mais il n'y a pas de directeur sportif qu'on l'entend dans notre
langage. Là, t'as une organisation qui semble être mise en place, si on peut considérer qu'elle est mise en place, où tu dis, écoute, je vais confier le pouvoir sportif à un directeur sportif qui est Juninho, et le pouvoir le reste, c'est-à-dire tout le reste, et c'est énorme, administratif, financier, etc., à Vincent Ponceau. Très bien, pourquoi pas. Après, on peut dire l'un n'est pas compétent, machin. on décide de donner une, d'aller rogner sur le périmètre du foot, de donner le titre qu'il a sans doute souhaité, puisque, enfin, oui, qu'il a accepté, en tout cas, Vincent Pousseau, pour dire directeur du football, et lui-même, pendant
c'est
tout ce temps-là.
C'est une vraie connerie, c'est une débilité. C'est un anglicisme, parce que directeur de football, c'est d'accord, en Angleterre.
Ce que je veux te dire, c'est que Juninho a raison en tant que directeur sportif, et même si c'était un autre directeur sportif, même si c'était Florent Ghisolfi qui est très compétent, il aurait sans doute raison de prendre ombrage du fait que je vois zéro fois en one-to-one mon président. On m'a fait venir pour gérer le sportif, et j'ai mon directeur financier administratif qu'on m'avait présenté comme tel quand je suis arrivé, qui dit, bah non, parce que moi je veux valider, regarder tous les trucs que tu fais, et même prendre le titre de directeur du foot.
Mais, je trouve quand même que dans leur regard, si c'est lunaire. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi, bon, je partage ça. Mais si en même temps, Juninho, quand on parle de recruter un assistant, là, c'est quand même le recrutement d'un assistant de Juninho. On parle de ça, hein. Et quand on voit le process, le profil de la recrue, le process d'où il vient, moi, ça m'inquiète pour Juninho. Tant que j'aurais pas vu Juninho en poste ailleurs et montrer ses compétences aussi.
D'accord.
Et il est sans doute, alors, c'est toujours un triptyque, le foot. C'est le bonhomme, le bon endroit, le bon moment. Alors, était-il le bonhomme? Moi, j'ai un doute. Était-ce le bon endroit? Là, il n'y a pas de doute, parce que la relation est, était-ce le bon moment? Certainement pas, parce qu'il est effectivement arrivé dans une pétodière. Ça, il n'y a pas de doute. Il a 10 000
circonstances. Mais c'est marrant que tu vois le problème Juninho qui en est peut-être un, et pas le problème du club.
De l'assistant, j'ai l'impression d'être à l'US Alonso pour le recrutement de la patronne de la Juventus.
Non, mais ne voir que le problème Juninho, c'est bizarre. C'est le problème d'un club, d'un immense club, qui est géré quand même bizarrement.
Mais quand t'es DGA d'un club comme Eponso et que tu vois que le directeur sportif te sollicite pour ce type de recrutement-là, je sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais moi je serais inquiet. Je me dirais, mon directeur sportif, il est pas dans son rôle, il est à côté de la plaque. Il parle aussi à un moment donné, il dit Juninho, il a voulu que tous les salariés du club, et c'est très généreux, on voit bien que Juninho est une belle personne et quelqu'un de généreux, et on l'entend sur RMC. On a aucun doute là-dessus. C'est pas le débat. Le débat, c'est la compétence au poste. Et de se dire que, est-ce que c'est le boulot de Juninho, par exemple, de dire, il faut mettre une prime, pour, le staff, ou je sais pas quoi. Je suis pas sûr que ce soit ce niveau-là. C'est ce qu'on attendait à ce moment-là dans l'histoire de l'OL, d'un directeur sportif, du standing supposé de Juninho.
Voilà pour le Lyon qui joue face à Clermont dimanche soir. Ce sera c'est la plus grosse affiche d'un dimanche soir qu'on ait connu, celle-là. Lyon-Clermont.
On l'attend avec impatience. Oui. Ceci dit, il y a une tension autour de ce match.
C'est sûr que si Lyon ne gagne pas.
Ouais, mais même Clermont. Forcément. Parce qu'évidemment, on passe toujours l'autre équipe par-dessus le parapet. Mais le Clermont a aussi gros à jouer dans ce match-là.
C'est pas un derby.
Oh non.
Je savais que ça allait te faire bondir.
C'est le derby créé par François Hollande avec son redécoupage des régions.
À l'échelle de la Liga, c'est un derby, Lyon-Clermont.
On va dire ça au Stéphano, il va être content. 135 km. Entre les deux? Entre Clermont et Lyon.
Et Lyon, d'accord. Voilà. Une info biche, non?
Exactement. Jimmy Brown. Allez, à tout de suite avec la nouvelle passe d'armes d'Armanin Benzema qu'on vous raconte dans l'after dans quelques secondes.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h49, Florent Gautreau et là, Stéphane Guy est là. Je rappelle que nous sommes sur RMC et sur la chaîne YouTube d'RMC de l'After. Chaîne YouTube de l'After, abonnez-vous. After-Foot, très facile à trouver. Et vous pourrez voir notre studio. Il y a un chat très bien géré ce soir, une nouvelle fois, par Bam Bam et Mickey. Ce sont nos modérateurs. Même ce qu'il fait toujours modérateur pour éviter évidemment les excès de langage, les messages injurieux notamment, mais il y en a très peu puisque la communauté de l'After est toujours bienveillante, vous le savez. Non, c'est pas toujours vrai.
C'est plus bienveillant que le chat YouTube, non? J'ai l'impression que le chat YouTube est plus bienveillant que ce qu'on pourrait voir sur certains d'autres réseaux sociaux, non?
Ouais.
On l'a sur un des murs de notre studio, là, en direct.
Il y en a qui disent le chat sert à rien, ils ne lisent pas. C'est faux. On n'arrête pas de lire.
Oui. Parce qu'on relaye pas tous les messages, il y en a beaucoup.
Pas de son pendant la pub. Ouf. On peut se dire enfin tout ce qu'on pense les uns des autres.
Bon, ouais, donc où que vous soyez dans le monde, parce que ça, c'est une chose extraordinaire.
Est-ce que ça marchait pas sur Twitch avant de Thaïlande? Là, c'est top.
Voilà, on a des messages du monde entier.
Hier c'était Montréal, la Thaïlande.
Ouais, je salue ma fille à Ottawa. Ah. Jojo, ton père t'embrasse.
Très bien.
Et je salue la place Plume de Tours, puisqu'elle a été citée dans le chat sur YouTube, qui a dit la place Plume est avec toi.
La
place Plumereau, pardon, parce qu'on appelle place Plume quand on est Tourangeau.
D'accord.
Très bien. Ah, voilà.
On peut parler du ministre de l'Intérieur.
Oui, c'est vrai que
Gérald Darmanin était sur BFM TV tout à l'heure, fin d'après-midi. Alors, genre petit rappel rapide de contexte. Lundi, il dit que Karim Benzema a des liens notoires avec les Frères musulmans, organisation considérée comme terroriste dans beaucoup de pays. Évidemment, derrière, on lui demande des explications. Avez-vous des preuves, monsieur le ministre? Son cabinet fait savoir que vous comprenez, il a retweeté des gens pas très recommandables, qui s'est pris en photo avec un imam, ou qu'il y a une photo de lui a été prise avec un imam, parce que c'est pareil, les photos des sportifs, on ne sait jamais trop qui a fait la photo, dans quel contexte. Enfin, tout ça évidemment est à prendre en considération. Enfin, des arguments, on va dire, tout de même, un peu léger.
Il n'y a pas d'argument massue qui a crédité cette thèse-là.
Exactement, il n'y a pas de preuve formelle.
C'est ça.
Voilà.
C'est
ça. Et donc, tout à l'heure, sur BFM TV, la question lui a été posée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu allé trop loin en expliquant que Benzema avait des liens notoires avec les Frères musulmans? Réponse du ministre de l'Intérieur.
Non, je ne suis pas excessif et je pense que les Français voient très bien le danger. Il y a des personnes, notre société, qui utilisent malheureusement des proxys, des personnes connues, qui ont une meilleure image, et monsieur Benzema est un magnifique footballeur, personne n'en dit ce qu'on vient, qui ont une responsabilité très forte, qui ont des millions de personnes le suivent, notamment des millions de jeunes, et qui sont capables en effet de poser par exemple avec des imams que l'État français soupçonne de radicalisation, avec des autres champions qui condamnent pas l'assassinat ou qui s'en réjouissent parfois d'un professeur.
Alors dans le langage diplomatique, ce qu'on appelle un proxy, c'est le mot qu'a utilisé.
C'est pas
une supérette, exactement.
Il n'est pas allé faire ses courses
en fait,
proxy.
C'est l'utilisation d'une personne intermédiaire ou d'une société intermédiaire pour faire passer son message. Vous voyez, ou pour enfin, financer quelque chose. Ou, voilà, on passe par un proxy.
Un influenceur.
Voilà.
Je sais pas si c'est comme ça qu'on peut traduire.
On comprenne bien le propos. Voilà. Avant que vous réagissiez, je vous fais écouter un autre extrait tout à l'heure sur BFM TV. Et là, la question est est-ce que seriez prêt à vous excuser si jamais vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin et que finalement il n'y a pas de preuve avérée quand même. Réponse du ministre.
Monsieur Benzema, qui est un très grand footballeur, qui a des millions de personnes qui le suivent sur Internet, je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras. Si M. Benzema est capable de montrer que, en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, il pleure également la mort de ce professeur, mais je retirerai mes propos.
Voilà. Bon, vous avez clair. Darmanin persiste et signe. En l'occurrence.
Même un chantage, là. En l'occurrence. Parce que dans ce cas-là, tu vas demander à des tas de gens tu vas leur imposer de faire un tweet sur tel ou tel sujet.
Mbappé non plus, par exemple. Voilà. Si on prend le monde du foot, à l'heure où je parle.
Personne ne tweet sur tout. Enfin, je veux dire, par définition.
Et Dieu merci. Bah. Non, mais après, Karim Benzema a des engagements politiques. Clairement, annonce. Enfin, je répète ce que j'ai déjà dit à ce micro, mais jouer en Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est un acte politique. Voilà. Oui. C'est pas qu'une décision sportive, c'est un acte politique.
Il n'y a pas que ça.
Tweeter ce qu'il a tweeté à propos des événements.
Jouer en Arabie Saoudite ne fait pas de toi automatiquement
Frères musulmans, mais par contre, oui. Tu sais que tu viens servir une propagande d'État qui est la propagande de l'Arabie Saoudite. Quand tu joues pour le football en Arabie, les salaires qui sont donnés là-bas ne peuvent se concevoir que de ce point de vue-là. Sinon, il n'y a aucune raison de recevoir ces sommes-là pour jouer là-bas, puisqu'il n'y a aucune économie réelle. Donc, c'est uniquement, c'est un acte, c'est une opération de communication politique de l'Arabie Saoudite.
Bon. Il y a deux choses. Je pense que Darmanin.
Je n'ai pas besoin de rappeler ce qu'est le régime de l'Arabie Saoudite.
Darmanin, c'est fourvoyé, c'est clair, et c'est très étonnant. Enfin. Qu'il ne fasse pas machine arrière, mais je ne sais pas comment il pouvait faire, sur le fait qu'il y ait des liens notoires et avérés entre les Frères musulmans et Benzema. Ça, c'est clair, maintenant.
Et si vous voyez, à moins que lui ait des preuves qu'il ne donne pas publiquement.
Oui, non, mais il pourrait au moins dire, dans ce cas-là, j'ai des preuves que je ne peux pas donner publiquement, que je ne l'ai pas fait. Donc, à mon avis, ce n'est pas vrai.
En plus,
c'est nul. Et juste pour rappeler que, dans le contexte actuel, faire ça, là, pour le coup, c'est jouer avec le feu.
Bien sûr.
Parce que, ce qui est vrai, c'est que je le disais hier, là où tu as besoin d'unité, de réunir un peu tout le monde ou d'essayer au moins de ne pas diviser, on va dire sans unifier, au moins de ne pas diviser. Là, je peux être sûr.
Là, tu m'as
vu. Depuis hier, moi, je reçois des centaines de messages à ce sujet. Tu mets le feu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, quand même, s'il n'avait pas dit cette chose qui a priori est un mensonge, hein, Darmanin, mais qu'il avait évoqué les deux points, enfin deux des trois points, mais deux points qui laissent penser qu'effectivement, comme dit Benzema, milite quelque part politiquement. C'est vrai que c'est, cette photo avec l'imam de Meaux, juste après l'assassinat de Samuel Paty, alors qu'il y avait eu perquisition chez cet imam de Meaux, c'est une chose qui peut être, qui dans un débat aurait pu être souligné. De même que Karim Benzema a fait ce message de soutien, ou a retweeté plutôt, a relayé le message du fameux combattant, tu sais, de MMA, oui, qui lui-même s'en prenait à ceux
qui avaient
fait,
banlieues, hein,
ouais, qui avaient fait les caricatures de Mahomet. Mmh. Là peut-être qu'il y avait des choses, là c'était avéré, c'était des faits, tu vois, pour le coup. D'ailleurs je note que bon, voilà, ça n'apparaît pas vraiment, parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un lien clair avec les frères musulmans.
Et puis nous quand même, on va pas se mentir, nous, passionnés de football, on a un vrai problème avec Darmanin. On a vécu, nous, moi j'ai vécu, j'étais dans, encore une fois, je répète, au Stade de France, au jour de la finale, Liverpool, Real Madrid, pas en carte de presse, avec mes amis supporters, dans les files de supporters, j'ai vu de mes yeux vus à quel point Darmanin mentait. C'est un mensonge d'État, cette affaire-là. Donc ouais, quand cet homme-là, aujourd'hui, prend la parole, sans nous donner effectivement des preuves formelles et nous apporter oui effectivement nous accréditer son propos de preuves formelles, on est obligé effectivement d'être extrêmement
C'est vrai que les affaires de football lui réussissent pas.
Non,
il était arbitre. Non. Figurez-vous.
Ouais. Non, mais en plus, je pense qu'il aime, pour le coup, il aime le foot, mais c'est pas le, il essaie lui aussi d'utiliser le foot à mauvais escient, comme beaucoup.
Dans un instant, on part à Marseille. On aura avec nous Philippe Pujol, spécialiste de la ville et du foot aussi sur place. On pourrait le baptiser marseillologue. Ton micro, Stéphane. Oui,
il le disait, Florent, il y a un tel besoin de d'apaisement, de tolérance. Si on veut comprendre aujourd'hui, si quelqu'un veut se projeter sur le risque demain, que dans notre pays, par exemple, les extrêmes se fassent, c'est-à-dire qu'on est d'un côté Mélenchon et ses acolytes, et de l'autre côté Le Pen et sa bande, il faut voir ce qu'est aujourd'hui la situation justement au Moyen-Orient, et voir ce que les extrémistes ont produit en Palestine et en Israël. On n'a tellement pas besoin de ça, on a tellement besoin de sagesse et de voix, de personnages publics, et notamment évidemment aux plus hautes fonctions de l'État, de gens qui apaisent, qui rassemblent.
Voilà un message positif de paix dans l'after. À tout de suite.
RMC, l'after foot.